France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut savoir quitter Châteauroux. C'est notre dernier jour dans l'Indre aujourd'hui. Toute la semaine, dans les carnets, nous avons mis en lumière des initiatives dans ce département du Centre-Val-de-Loire. Je vous recommande, notamment, si vous l'avez raté, l'émission de mardi sur le collectif Médecins Solidaires. Des généralistes qui se remontent les manches de la blouse pour lutter contre la désertification médicale dont souffre cruellement le Berry. Au programme aujourd'hui, un projet de parc naturel, soutenu par de nombreuses associations, et puis un tiers-lieu qui dynamise la ville du Blanc. La particularité de cet endroit, c'est qu'il est né suite au combat contre la fermeture de la maternité du Blanc. Ce combat a échoué, puisque la maternité a bel et bien fermé, mais de cet échec est né aussi un projet précieux et réjouissant. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Le département de l'Indre aura-t-il bientôt un deuxième parc naturel régional ? Il existe déjà un PNR dans l'Indre, celui de la Brenne, territoire marqué par de nombreux étangs. Et depuis 2 ans, un projet de nouveau parc est porté par des élus, des associations et des habitants dans le sud Berry. Bonjour Dominique Viard.
Bonjour Dorothée Barba.
Vous êtes membre bénévole de ce collectif, vice-président de l'association Indre Nature. Commençons s'il vous plaît par une petite cartographie. Quel est le territoire concerné par ce projet de parc naturel régional ? Quels sont les paysages aussi ?
Eh bien, ça concerne le sud du département de l'Indre et le sud du département du Cher, qui sont deux départements qui constituaient le Berry autrefois, la province du Berry. Et nous sommes une région avec des particularités paysagères, puisque nous sommes une région de bocage. C'est un très grand bocage au niveau national, le deuxième plus grand de France. Et c'est ce qui fait la caractéristique de ce territoire, et ce qui fait que ça a été retenu comme un élément permettant d'avoir un parc naturel régional qui a été proposé par les deux syndicats mixtes des deux pays.
On précise qu'un bocage, c'est un paysage de champs et de haies, hein, c'est ça ?
Effectivement, ce sont des champs plutôt assez petits, qui sont entourés de haies. Ils sont clos parce qu'autrefois, ils avaient une utilité importante en termes de séparation des parcelles pour conserver le bétail dans son enclos. Et ça permettait aussi d'avoir de l'alimentation bocagère au niveau des branches. Et ça permettait également de maintenir une espèce de protection pour les animaux.
Alors, il faut sans doute souligner, Dominique, la différence entre un parc national et un parc naturel régional. Ça n'a pas grand-chose à voir, en fait.
Tout à fait. Donc, un parc national, c'est une zone qui est protégée, avec des particularités, des réglementations très spécifiques, alors qu'un parc naturel régional, c'est une zone, un territoire qui est habité, et donc qui fonctionne comme n'importe quel territoire, à ceci près qu'il y a des caractéristiques paysagères et culturelles ou environnementales qui permettent d'avoir un parc et avec ce parc une charte qui fait en sorte que l'on puisse mener des actions tout à fait particulières.
Voilà, un parc national en fait existe pour préserver un milieu naturel qui est remarquable et fragile comme les calanques ou les écrins, tandis qu'un parc naturel régional c'est un territoire qu'on cherche à dynamiser finalement. Alors pourquoi voulez-vous un PNR dans le sud Berry, Dominique ? Qu'est-ce que ça changerait concrètement ?
Écoutez, on est une région qui perd sa population, qui perd ses médecins, qui a une biodiversité tout à fait intéressante, mais qui risque d'être attaquée de manière assez conséquente. On va dire qu'on est un petit peu les oubliés des politiques de développement dans notre région. On est vraiment l'extrême sud de la région Centre-Val-de-Loire. L'intérêt d'un parc naturel régional, c'est qu'on peut expérimenter des choses, des événements, des pratiques particulières, et qu'on peut obtenir pour cela des financements européens, des financements nationaux, des financements régionaux.
Voilà, le statut de PNR apporte au passage des aides publiques, ça n'est pas un détail.
C'est pas du tout un détail, au contraire, c'est un moyen d'avoir aussi une ingénierie, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans cette structure, qui sont là pour créer des initiatives, avoir des idées. C'est pas négligeable dans un secteur qui, quelquefois, un petit peu délaissé.
L'année prochaine, en 2026, ce sera le 150e anniversaire de la mort de George Sand, écrivaine qui aimait tant les paysages du Berry, Dominique. Ce serait un beau symbole pour vous d'obtenir gain de cause à cette occasion ?
Ça serait super. Une militante engagée dans bon nombre de choses, mais également dans l'environnement et dans le paysage berrichon de sa région.
Elle aimait les bocages du Berry.
Tout à fait. Elle l'a d'ailleurs mis dans dans plusieurs livres, les laboureurs, les paysages.
Quelles sont vos chances d'obtenir gain de cause aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, on peut dire que nous sommes un collectif de 52 associations sur l'ensemble du territoire. Nous avons des personnalités qui nous soutiennent. Par contre, nous sommes un peu confrontés, et ça c'est depuis 2024, à une opposition de la part des tenants du conservatisme et de quelques élus qui, pour avoir soutenu le projet jusqu'à présent, s'en distancient même, veulent l'abandonner. Donc on a besoin de soutien de beaucoup de nos associations et des habitantes pour faire mener ce projet. Je pense que la majorité de la population est très sensible au bocage et à la protection de son environnement et de son univers culturel et agricole. Et si les citoyens ont la parole, si on leur donne la parole, ce PNR se fera. Si on ne leur donne pas la parole, eh bien, on risque d'avoir une décision qui soit prise en catimini et qui pourrait bien être négative. Ça serait quand même pas une bonne nouvelle pour le pays de Georges Sand et du Berry Sud.
Merci beaucoup Dominique Viard, vice-président de l'association Indre Nature et membre donc de ce collectif de soutien au projet de parc naturel régional dans le Sud Berry. Bonne journée à vous.
Merci Dorothée, bonne journée à vous. À bientôt.
Une réaction d'auditrice suite à l'émission d'hier. Voici ce que nous écrit Marie. Vous avez lu un message d'auditeur qui parlait de Saint-Benoît-du-Sault, village de l'Indre qui se meurt parce que les commerces y ont fermé. Je voudrais vous signaler aussi la belle initiative de Lucille de Trémiol qui a choisi d'installer à Saint-Benoît son ensemble de musique et son festival Le Temps Suspendu. Depuis 10 ans, en effet, ce festival de musique baroque investit chaque été la magnifique église abbatiale de Saint-Benoît-du-Sault qui date du 11e siècle et propose aussi des concerts de poche gratuits dans les EHPAD et dans les centres de loisirs du secteur tout au long de l'année. Le Temps Suspendu, c'est à Saint-Benoît-du-Sault dans l'Indre.
France Inter, carnet de campagne.
Et nous voici au Blanc à présent. Le Blanc est une petite ville de 6000 habitants, à mi-chemin entre Châteauroux et Poitiers. On y trouve un endroit qui mérite l'attention des carnets. Carte Blanche, un tiers-lieu installé dans l'ancienne maternité qui a fermé en 2018. C'est un café associatif, un espace de bureaux partagés et de nombreuses associations y ont installé leur siège social. Bonjour Charlotte Perrin.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de cette association Carte Blanche qui porte le tiers-lieu. Alors parlez-nous d'abord de ce contexte un peu particulier qui a vu naître cet endroit, la fermeture de la maternité. Un collectif s'était créé pour lutter contre cette fermeture à l'époque.
Oui, exactement. Il y a eu un collectif citoyen qui s'est monté, qui s'appelle C'est pas demain la veille, et qui a réuni tout un tas de gens qui peut-être ne se seraient pas croisés si ce n'était pour ce mouvement. Et l'objectif était donc de lutter contre la fermeture de la maternité du Blanc, puisque maintenant, les habitants du Blanc doivent faire au moins 45-50 minutes de route pour aller à la maternité la plus proche. Et donc, il y a eu une vraie volonté locale de faire en sorte que cette maternité ne ferme pas. Tous ces gens-là, il fallait bien qu'ils aient un point pour se réunir, se retrouver, échanger, etc. Et donc, juste à côté de l'hôpital où était située la maternité, il y a une maison qui s'appelle la maison médicale. Je me permets juste de vous corriger, le tiers-lieu, il est situé dans l'ancienne maison médicale.
D'accord, juste à côté donc.
Voilà, qui est attenante à l'hôpital. Et donc, les médecins, à cette époque-là, n'occupaient déjà plus les lieux, puisque pour certains, ils étaient soit en retraite ou soit ils avaient été relogés dans la maison de santé mise à dispo par une collectivité. Ils ont proposé aux habitants d'utiliser l'espace pour pouvoir se retrouver, manger, se réunir, échanger, etc. Et donc pendant toute cette lutte, il y a eu des vraies habitudes collectives qui ont été prises en utilisant ce lieu-là. Malheureusement, la lutte, elle a été perdue. Et à la fin de cette lutte, les acteurs se sont remis autour de la table en se disant que peut-être il y avait quand même un besoin d'avoir un lieu sur le territoire pour que les gens puissent se retrouver. Ça venait en parallèle aussi avec un vrai manque d'espace pour les associations sur le territoire.
Et c'est ainsi que la maison médicale est devenue la maison amicale.
Exactement, oui, elle a été rebaptisée.
Et aujourd'hui, que se passe-t-il dans ces locaux ? Beaucoup de choses, je crois.
Oui, beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, Carte Blanche, c'est une association qui compte près de 400 adhérents, des espaces de coworking et des espaces de réunion ou de la mise à disposition d'espaces, une vingtaine d'assos qui utilisent nos lieux régulièrement pour des réunions ou qui ont leur siège social chez nous, etc. Une dizaine de structures qui ont leur bureau à l'année chez nous. Donc essentiellement des associations, mais on a aussi deux entrepreneurs et entrepreneuses. Et puis c'est aussi un café associatif, des soirées culturelles, soirées théâtre, soirées musique, etc. Et on a également un espace qui s'appelle l'atelier partagé qui permet de s'essayer à diverses pratiques artistiques. Ma collègue Pauline, parce qu'on est deux salariés de l'asso, ma collègue Pauline, elle peut former des gens à la linogravure, la sérigraphie, etc.
Un festival est prévu bientôt, la semaine culottée, ce sera du 5 au 12 mars. En quoi consiste ce festival ?
Oui, cette année, en 2025, ce sera la deuxième édition du festival. C'est un festival féministe pour parler du droit des femmes, pour parler des minorités de genre, pour parler de plein de choses autour des femmes. Donc, on peut retrouver plein d'événements différents, que ce soit au cinéma, dans des salles de spectacle. Voilà.
Journée internationale des droits des femmes, bien sûr, le 8 mars. Des conférences, des débats, des concerts et j'en passe. Et tout est gratuit hein, pendant cette semaine culottée.
Exactement. Ça, c'est aussi un peu la volonté de Carte Blanche de manière générale, c'est de proposer des temps et des espaces accessibles à tous.
C'est toujours difficile hein, de dire qu'un lieu comme le vôtre marche bien ou qu'il a du succès. Vous n'êtes pas une entreprise privée. Mais quels sont les effets de Carte Blanche sur votre territoire, Charlotte ? Est-ce que vous êtes fière de ce qui se trame dans cet endroit ?
Alors oui, absolument, c'est vraiment un projet qui pour moi a beaucoup de sens, auquel toute l'équipe, que ce soit les administrateurs, les bénévoles et les salariés, on y croit très fortement. C'est assez difficile de donner des chiffres pour évaluer l'impact qu'un lieu comme Carte Blanche a sur le territoire, mais c'est vrai que l'objectif premier est de travailler à la dynamisation du territoire, de répondre à des besoins existants, et je pense que après 4 ans d'existence, on est quand même devenu un lieu qui fait partie du paysage et pour lesquels les gens ont le réflexe d'appeler pour des questions très diverses et variées. Des fois, des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Mais en fait, on voit que ce lieu très visible, mais pas toujours très lisible, est quand même vraiment identifié comme un espace ressource sur le territoire. C'est un endroit qui bouillonne, qui brasse, qui fait se rencontrer des gens qui ne se seraient peut-être jamais croisés. C'est un endroit des possibles.
Vous allez devoir quitter temporairement les lieux, je crois, hein, au printemps pour des travaux ?
Oui, en fait, on est devenu propriétaire en août 2023 du bâtiment. Je me permets de préciser qu'on a réussi à réunir les fonds en un mois avec des dons et des prêts particuliers, puisque ça aussi, ça met en valeur une forte mobilisation locale et citoyenne. Mais devenir propriétaire, ça nous donne aussi certaines responsabilités. Et donc, ce bâtiment est vétuste. Puisqu'il date des années 70. Donc, on est dans un très grand projet de réhabilitation complète du bâtiment. Donc, à partir d'avril-mai, on sera logé. C'est pas encore défini exactement où, puisque pour pouvoir reloger tout le monde, quand on est dans un bâtiment de 900 mètres carrés, c'est difficile de retrouver l'équivalent. Mais l'idée, c'est d'être relogé ailleurs et pour une durée d'au moins un an.
On vous souhaite le meilleur pour la suite. Je rappelle que l'association s'appelle Carte Blanche, la maison amicale. C'est le petit nom de cet endroit et c'est au Blanc, dans l'Indre. Merci beaucoup Charlotte Perrin.
Eh bien, merci beaucoup à vous et puis à bientôt peut-être si vous passez dans le coin.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Ainsi s'achève notre semaine dans l'Indre. La semaine prochaine, on reste dans le Berry puisque c'est le département du Cher qui sera à l'honneur. Tenez, nous avons reçu des nouvelles de Tulipe. Tulipe Centaine, boulangère militante en Haute-Garonne, à qui j'ai donné la parole il y a quelques mois dans cette émission. Voici ce qu'elle nous écrit. Je suis boulangère dans un milieu rural, très 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 rural, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Nous avons une équipe super, mais l'une de nous doit partir et c'est très difficile de trouver quelqu'un. Cela peut mettre en péril la boulange, écrit-elle. Alors si Dorothée pouvait passer un petit message en disant que le fournil Résistance cherche à partir de mi-février une nouvelle boulangère, pleine de motivation, même débutante, si la joie et la passion l'envahit, nous sommes preneuses, nous sommes prêts à lui trouver un logement, et évidemment les boulangers sont acceptés aussi, précise-t-elle. Et Tulipe ajoute, je sais, si tout le monde faisait ça, vous seriez France Travail de la ruralité, mais j'envoie une bouteille à la mer. Eh bien le message est passé, ma chère Tulipe. Le fournil Résistance, c'est à Saint-Bertrand de Comminges, magnifique village au pied des Pyrénées. Un grand merci à toute l'équipe des Carnets de Campagne. Sophie Hoffmann et Lila Rapoport à la préparation de l'émission. Loïs Moreau à la technique.